Sur ce sentiment inconnu, dont l'ennui, la douceur m'obsède, j'hésite à apposer le nom,
désespoir.
Le beau nom grave de tristesse.
Vous vous rendez compte de votre état ?
La mélancolie.
Vous avez envie de guérir ou vous n'avez pas envie ?
Remède.
Ce que je veux avant tout, c'est que les gens se soignent.
À la mélancolie. Eva Bester.
Appelez-moi docteur.
Bonjour à tous et bienvenue. Je vois que mon invité a froncé des sourcils. Là, je veux que les gens se soignent. Ne vous inquiétez pas, je veux pas que les gens se soignent, sinon j'aurai plus de travail. Nous sommes tous mélancoliques et désespérés. Et bienvenue en tout cas à tous dans cette émission préparée par Corinne Valente et Laure Grand-Besançon, réalisée par Eliane Girard et Frédéric Milano et mise en musique par Muriel Pérez, aujourd'hui à la technique, Kevin Pelot. La gourmandise ce matin est très courte, c'est une citation semi-consolatoire mais incontestable du journaliste et écrivain Alfred Capu. Tout finit par s'arranger, même mal. À l'âge de 13 ans, notre petit quart de l'âme parvient à convaincre Radio Corsair, station qui vient d'être créée à Dunkerque, de l'embaucher. Il réussit également à en être vite licencié suite à une blague sur la mairie de Dunkerque, laquelle, il n'est pas au courant, finance alors la nouvelle radio. Cette découverte précoce de la politique laisse place à un engouement pour le théâtre qu'il pratique durant sa scolarité. En seconde, il découvre par ce biais qu'il est capable de faire rire, une prise de conscience grisante qui le conduit au Centre Dramatique National du Nord-Pas-de-Calais. Il fonde une troupe de théâtre amateur et après avoir étudié les sciences de l'information et de la communication à Lille, rejoint le cours Florent à Paris où il rencontre les camarades avec lesquels il fondera la fameuse troupe des Robins des Bois. Il devient brigadier dans la série Julie Lescaut et tourne au cinéma sous la direction entre autres d'Étienne Chatillez, Alain Chabat, Gérard Jugnot, Olivier Dahan, Michel Blanc ou encore Jean-Pierre Jeunet. Tandis qu'il incarne le célèbre Jeff Tuche dans la trilogie d'Olivier Barou, sa physionomie continue de s'accommoder aussi bien du burlesque que du mélancolique sur une multitude de pellicules. Notre Ticard a également mis en scène 4 longs métrages et signé quelques clips. Je n'ai pas de chute à cette introduction, c'est donc le moment d'ajouter qu'il est aussi la voix française de Melman la girafe dans les longs métrages d'animation Madagascar des studios DreamWorks. Bonjour Jean-Paul Rouve qui me regardait avec une tête de point d'interrogation.
Non, tout est bien, bravo, c'est la DGSE un peu. Hein.
Totalement, ouais. Vous êtes sur écoute chez vous quand vous parlez au téléphone. Ouais. Jean-Paul Rouve, quel rapport entretenez-vous avec la mélancolie ?
Un rapport constant. C'est un... Comment dire ? Je sais pas. C'est un vieil ami, on va dire. Voilà, c'est comme quelqu'un qui vous accompagne toute votre vie. Et comme les vieux amis, des fois, vous les voyez plus. Des fois, ils vous énervent. Des fois, ils sont envahissants. Et des fois, vous êtes content de les retrouver. C'est un peu ça, la mélancolie.
Mais ami, c'est plutôt positif, malgré tout, comme
rapport. Oui, mais c'est pour contrebalancer le titre de votre émission, que je trouve totalement négatif.
Ah oui
pourquoi un remède à mélancolie ?
On essaye.
Mais pourquoi ? Ça veut dire que c'est une maladie, alors ?
Non, parce que sinon, le suicide guette.
Parce que vous le voyez comme ça.
Ah oui, moi je le vois comme ça. Moi, je n'y vais pas.
Vous voyez
pas de demi-mesure.
Vous voyez la mélancolie comme une étape vers la dépression et vers.
C'est l'une de ces définitions. Il y en a une telle multitude en fait qu'aucune n'est la vraie et aucune n'est fausse.
C'est pour ça. C'est tellement humain. C'est tellement propre à l'homme plus que le rire encore. Je trouve la mélancolie. Et puis c'est pas lié à. Quand j'avais fait un film qui s'appelait Quand je serai petit. Et dans les interviews, on me disait souvent, votre film est nostalgique. Et je répondais, non, il est pas nostalgique, il est mélancolique. Et là, j'avais une tête ahurie, comme si je disais la même chose, comme si c'était des synonymes.
Non, pas du tout.
Non, ça n'a aucun rapport.
Ça
n'a aucun rapport. La mélancolie peut virer à la nostalgie. Vous avez raison, peut virer à la dépression. Moi, il y a une définition que j'aime bien. Parce que quand on a dit ça, je me suis dit, tiens, je vais regarder un peu, mais c'est quoi vraiment la mélancolie ? Alors, comme vous dites, il y a 1000 définitions, c'est ça qui est drôle. Et il y en a une que j'aime bien, parce qu'elle dit quoi ? Elle dit, en fait, c'est un état transitoire entre, par exemple, quand on a eu un grand malheur, par exemple, une rupture ou un décès. On a besoin de cet état transitoire pour aller mieux. Et j'aime ça. Ça me fait penser à vous savez, quand vous vous baignez, quand vous êtes sous l'eau. Quand vous êtes sous l'eau, il y a 2 possibilités. Vous regardez en bas et vous voyez les abysses et c'est noir. Et puis si vous regardez en haut, vous êtes encore dans l'eau, mais vous voyez les rayons du soleil. Pour moi, la mélancolie, elle correspond à ce moment quand vous êtes dans l'eau.
Vous y êtes souvent, Jean-Paul Rouve ?
Dans l'eau ?
Oui.
J'avais fait de l'apnée pour un film.
Non, mais je parle dans l'eau mélancolique.
Ah, je pensais que vous parliez de l'eau, la vraie.
On peut parler de l'eau, la vraie, ensuite, si vous voulez.
Et oui, bien sûr, bien sûr. C'est comme je vous dis, c'est vraiment un compagnon de route. Et c'est un outil aussi, évidemment, quand on fait un métier artistique. Tous les gens qui sont artistes, qui sont passés chez vous, ont dû vous le dire. C'est un outil formidable, évidemment, la mélancolie. Puisque c'est une conscience, je pense que c'est une conscience de la nature humaine. C'est un petit peu quand vous faites une photo et que vous mettez un filtre, en fait. Je prends une photo d'ici, je prends une photo de ce studio, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Si je mets un filtre d'un seul coup, ça va avoir du charme, ça va avoir quelque chose, ça va raconter quelque chose. Ben, la mélancolie, elle met un filtre à la vie.
Il paraît, Jean-Paul Rouve, que vous êtes un grand anxieux. C'est vous qui vous décrivez comme ça dans certaines interviews. Est-ce que c'est un rapport avec la mélancolie ou pas?
Non, je pense pas. J'ai pas l'impression. C'est deux choses différentes. Je pense que la mélancolie, l'anxiété, je pense que c'est de l'acquis. Et que la mélancolie, c'est de l'inné. Voilà. Je pense qu'on est mélancolique, mais comme tous les êtres humains, et c'est plus ou moins développé. Et puis c'est pas lié à la nostalgie, puisque moi, enfant, je me souviens, j'étais petit et mes parents avaient vu des profs. Enfin bref, j'étais petit et ils avaient dit mais votre enfant est mélancolique. C'est drôle parce que un enfant mélancolique, on se dit il regrette quoi quand il n'était pas né. Et donc voilà. Donc je pense que c'est l'inné et l'anxiété. Je pense que ça vient de mon éducation et de mes parents.
Ah, les parents. Bon, j'annonce le sommaire des réjouissances, si vous me le permettez, Jean-Paul Rouve.
Vous en prie.
Vous allez convoquer dans quelques instants Jean Rochefort. Nietzsche, Goscinny, Sempé, Goscinny, Du Jardinage, Goscinny, Stan Getz, les Beatles, Goscinny et Van Gogh, juste après le titre Bonhomme de Philippe Catherine.
Vous ne savez pas écrire, vous ne savez pas lire, vous savez tout et bien pire, mais vous ne pouvez le dire. Moi, ce que j'avais compris, le rêve n'est pas fini quand le rêve est ça. Comment je vis, pourquoi je suis, toi tu t'en fous, tu n'es pas fou, tu dessines des bonhommes, et toi tu regardes ton chewing-gum. Ce que tu vois, je ne sais pas. Ce que je vois, ça met en joie. Tu dessines des bonhommes. Et toi, tu colles ton chewing-gum sur ma tête. Sur ma tête. Arrête. Arrête. Je sais qu'il existe une forêt oubliée, mais je ne sais pas par où passer. Je ne sais pas lire en toi, en toi.
Qui le bête?
Vous ne savez rien des migrants, des guerres civiles au Soudan, le Bataclan et Charlie, vous n'avez pas tout saisi. Ce que vous avez compris, le rêve n'est pas fini quand le soleil donne. Comment je vis, pourquoi je suis, toi tu t'en fous, tu n'es pas fou, tu dessines des bonhommes, et toi tu parles avec un chewing-gum. Ce que tu vois, je ne sais pas. Ce que je vois, ça met en joie. Tu fais planer des bagnoles. Et toi, tu fais le rossignol dans ma tête. C'est la fête.
Remède à la mélancolie sur France Inter en compagnie de Jean-Paul Rouve.
L'après-midi, je me jetais dans le travail comme il est naturel à l'homme qui se trouve surpris par un spasme de son destin. Sauf à passer pour un innocent, je dois dire que je me disposais pour la première fois à trahir Marthe. Et cette pensée m'était odieuse. Les regards de mes collaborateurs ignorants du drame qui sourdait, et je le savais bien, uniquement dévoués à leur labeur inepte, me faisaient pourtant des brûlures. J'y voyais comme des reproches avancés. Mais au défi d'une société dont je respectais la morale, il me faut reconnaître que la jeune femme en rouge avait embrasé ma conscience.
Jean Rochefort dans Un éléphant, ça trompe énormément, d'Yves Robert, sorti en 76. Un film que vous avez choisi, Jean-Paul Rouve, avec sa suite, Nous irons tous au paradis. Et là, on entend le personnage d'Étienne, qui est un heureux père de famille, qui tombe fou amoureux de Charlotte, jouée par Annie Dupéret, et qui s'apprête à tromper sa femme, jouée par Daniel Delorme.
Du Chanel, je n'irai pas quand il est dans son bain. Non, du Chanel. C'est formidablement bien écrit, extrêmement bien joué. Enfin, ce film est souvent cité par des comédiens ou des gens qui écrivent. Quand on écrit un peu de la comédie, on rêve d'écrire ça. Parce qu'il y a tout dedans, en fait. Il y a tout. C'est un film sur l'amitié. C'est un film drôle. C'est un film touchant. Ça parle aussi de plein de choses. Du personnage de, il y a le personnage dedans de, que joue Claude Brasseur, qui est homo. Et c'est la première fois que dans un film, on montre un homo qui n'est, à l'époque, qui n'est pas une folle, une folle perdue. Donc voilà, c'est un film très moderne. Et puis Jean Rochefort. Les dialogues sont pertinents. C'est Dabadie. Les dialogues, Jean-Louis Dabadie. Voilà, donc avec mes potes acteurs, mes potes auteurs, on peut citer des pages entières de ça.
Il y a aussi Marthe Villalonga qui joue la mère de Guy Bedos, alors qu'ils n'ont que 2 ans de différence dans la vie.
Ouais, ils ont, c'est vrai, et ça marche pourtant dans le film. Et il y a une scène extraordinaire quand il apprend que sa mère est morte et qu'il est à la gare. Ses potes viennent le recevoir à la gare. Enfin, là, il arrive à la gare dans le train, lui, il apprend. Et c'est une scène en silence. Et Guy Bedos est sublime dedans. Ouais, c'est parfait ce film. Donc c'est un, tant soit peu que la mélancolie soit une maladie ou un état dont il faut guérir, c'est un bon remède ce film, enfin les deux.
Puis c'est aussi un film qui traite de choses graves avec une grande légèreté.
Ça, bah oui, avec beaucoup de pudeur, hein, voilà, moi je dirais. Parce que dans ce cas-là, la légèreté c'est la pudeur, c'est ça. C'est, on ne montre pas les choses, on parle à côté, comme souvent entre amis, comme souvent dans la vie d'ailleurs. Dans la vie, on dit rarement des choses importantes de front, sauf quand on s'engueule. Quand on s'engueule, on peut dire des choses. Et souvent après, on vous avez remarqué, quand on dit des choses, quand on s'engueule, après, on dit « Ah, mais je le pensais pas, je regrette », alors que si, on pensait, finalement.
C'est vrai, on le pensait, bien sûr qu'on
pense.
Mais
bien sûr qu'on le pense.
Plusieurs de vos amis viennent de vous quitter à l'annonce de cette phrase.
Ah, oui, c'est pas grave.
On va parler, parce que ça parle d'amour et d'amitié, ces films d'Yves Robert. Il est encore question d'amour dans votre idée consolatoire. C'est une citation qu'on trouve dans plusieurs ouvrages de Nietzsche, qu'il emprunte lui-même à Goethe.
Oui, c'est emprunté à Goethe, je ne savais pas. Je me demandais ça, justement.
Dans les années d'apprentissage de Wilhelm Meister, je vais encore sans doute avoir un mail d'insulte d'un auditeur qui dit que je ne prononce pas bien l'allemand. Pardon. Donc, Le crépuscule des idoles, par exemple. Il y a eu allusion à cette citation dans laquelle il déplore que ni les hommes ni Dieu n'appliquent cette citation. La citation, c'est « Si je t'aime, en quoi cela te regarde-t-il ?»
Ouais.
Comment vous l'entendez-vous, Jean-Paul Rouve?
Oh, je trouve que c'est fabuleux. C'est quelque chose de très optimiste. Hein. C'est puisque on s'en fout de la vie de l'autre. Et je trouve que dans le rapport amoureux, en tout cas, enfin, parce que là, c'est dans le rapport amoureux que ça prend son sens. Ça, c'est tellement fort le rapport amoureux, ça peut tellement être angoissant, ça peut tellement être prenant, ça peut tellement être une prison et tout. Enfin, je dis que des trucs difficiles là-dessus, mais que là, d'un seul coup, je trouve que cette phrase libère de beaucoup de choses. L'autre n'est responsable de rien. Et on assume à 100% la part des choses. Et je trouve que c'est un grand signe de liberté.
Mais il y a deux choses dans cette citation. Je dirais que le joli côté de cette citation, c'est le fait que on dit que l'on aime sans demander la réciprocité. Finalement, c'est un amour qui semble ne rien exiger en retour. Et puis il y a aussi la tonalité très égoïste de cette citation, c'est-à-dire dire à quelqu'un qu'il n'a rien à voir avec le fait qu'on l'aime, c'est-à-dire qu'on lui demande pas son avis.
Ah, vous le voyez ça, Non, moi je le vois pas comme ça. Non, ça, celle-là, je la vois pas. Ça, c'est votre côté pessimiste qui est terrible.
Non, c'est Goethe. Goethe et moi sommes d'accord.
Ah, c'est Goethe et moi. Oui. On dirait une chanson de Vincent Delerme. Goethe et moi, ça pourrait être une chanson de Vincent Delerme. Qu'est-ce que j'allais dire? Non, moi, je le vois plus là, de ce que vous dites la première fois. Non, je trouve ça assez amusant ça m'amuse, voilà. Je trouve ce côté contradictoire qui m'amuse, en fait. C'est ça qui m'amuse. Si je t'aime, en quoi cela te regarde-t-il? On pourrait dire, vas-y, ça me regarde quand même. Bah non, en fait, non. Moi, je t'aime, voilà. maintenant, t'en fais ce que tu veux, toi. Non, je trouve ça beau, moi. Ça me plaît. Là, je trouve ça très positif.
Et vous arrivez à l'appliquer?
Non, bien sûr que non, évidemment que non, puisque tout ça, c'est des belles phrases.
Évidemment.
Et comme tous ces personnes, comme Goethe et tout, qui fait le malin, mais j'imagine qu'au quotidien, Goethe, il devait être comme nous, hein.
C'est possible.
Ah, bah, c'est certain.
Vous aimez énormément le calembour.
Exactement.
Vous l'avez toujours aimé?
Toujours. Quelquefois, je dis comment vas-tu, haute poil, et je ris, vous pouvez pas savoir. Oui, j'ai toujours aimé ça. Toujours, toujours. Je crois que d'être un humoriste, c'est glandulaire, ça ne s'apprend pas. Et j'ai toujours eu envie de faire rire les gens.
Archive de René Goscinny, extraite du documentaire de 2017. René Goscinny, notre oncle d'Armorique, de Guillaume Podrovnik et Pierre Maïlis Laval. Goscinny, qui va revenir souvent dans cette émission, Jean-Paul Rouve, c'est l'auteur d'une autre citation anti-spline pour vous. On se fait des amis d'enfance jusqu'à un âge très avancé. Ouais. Vous l'avez vérifié, ça?
Oui, David Fonkinos.
Voilà. Avec lequel vous avez collaboré plusieurs fois. Vous avez adapté
J'ai adapté un de ses livres, Les Souvenirs. Ensuite, on a écrit Lola et ses frères, tous les deux. Et là, on est en train d'adapter son dernier roman qui s'appelle Deux sœurs. Et voilà, et David, je le connais depuis 5 ans, 6 ans, peut-être, il faudrait que je regarde à peu près. Bon, ça fait pas longtemps, vous voyez. Bah, c'est un ami d'enfance. Voilà. Donc ça, quand j'ai lu cette phrase de Goscinny, je la connais depuis pas si longtemps que ça, cette phrase. Et j'ai dit, ah là là, c'est tellement vrai, c'est tellement beau. Voilà, ça aussi, c'est quelque chose de très positif.
Vous avez choisi des films de copains, Jean-Paul Rouve, et là, une citation qui va dans le même sens.
Ah,
c'est
vous
important
avez
pour vous, l'amitié?
Ah bah oui, parce que l'amitié, c'est quand même... On n'attend rien en retour. Moi, j'attends rien en retour.
C'est vrai?
Oh, mais non, surtout pas. Mes potes, ils sont là. Ils sont là, ils sont plus là. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas tout ça. Non, non. Alors oui, c'est un sentiment bienveillant. Il y a beaucoup de bienveillance dans l'amitié. Enfin, pour moi, hein. Peut-être qu'il y en a des gens qui la vivent autrement. J'ai pas beaucoup d'amis, beaucoup de copains proches, mais ceux que j'ai, c'est une source de bonheur. David en fait partie. C'est une source de bonheur. Je sais que si je vais pas bien ou si j'ai besoin, j'appelle David ou deux autres que j'ai, hein, mais il en fait partie, oui.
Ça ne vous est jamais arrivé, Jean-Paul Rouve, d'être déçu par des amis?
Si, bien sûr.
Et comment réagissez-vous dans ces cas-là?
Bon, c'est plus un ami, c'est pas grave.
Ah oui, je pensais que là vous étiez très tolérant, mais en fait non, quand même.
Non, non, après il faut des choses. Et encore, mais après c'est pas vraiment des amis, non. Je pense que mes amis, je serais profondément malheureux si ça arrivait avec des gens très proches, comme David, comme Christophe Offenstein, qui est mon chef-op et qui est un ami. Voilà, j'en ai 3-4 comme ça. Je pense que oui, là, je serais très très malheureux, évidemment. Après, ceux avec qui c'est arrivé, c'est que c'était pas vraiment des amis, parce que finalement, ça m'a pas touché plus que ça.
Comment est-ce qu'on entretient une amitié?
Bon, on se voit pas forcément.
Ouais, ça marche.
Ben bien sûr que ça marche, et surtout, on n'a pas besoin de se le dire. C'est là où la différence avec l'amour, parce que... vous savez, cette phrase idiote, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Qu'est-ce que c'est con, ça? Ça veut dire quoi? Ça
Je
veut dire
la connaissais pas, cette phrase.
Oh là, elle est complètement conne.
Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour.
Oui, il n'y a pas d'amour, il y a des preuves d'amour. C'est idiot comme phrase. On dirait une phrase de publicitaire.
Ouais, c'est vrai que c'est assez matérialiste.
Mais c'est idiot, des preuves d'amour. Ça veut dire qu'il faut prouver pour aimer? C'est-à-dire que pour l'autre, vous. Bon, bref. Pourquoi je vous dis ça? Donc, dans l'amitié, il n'y a pas ça. Moi, j'ai des potes, je les vois pas pendant, je sais pas, Christophe, des fois, il me laisse des messages, pendant 3 mois. Non, j'exagère, mais pendant 15 jours. Allez, pendant 15 jours, il me voit des messages, rappelle-moi tête de mort, qu'est-ce que tu fous, tête de mort, je le rappelle pas.
Tête de mort,
il m'appelle. Et donc, je le rappelle, et là, il dit rien. Il dit, mais t'étais où? T'étais mort. Je dis, ouais, j'étais mort, et là, je vais mieux. Et puis voilà, et puis c'est reparti. Voilà, c'est ça. Oh là là.
Vous disparaissez souvent?
Non, j'ai disparu souvent. Moins que j'aimerais, ouais. J'aimerais plus disparaître, ouais.
Ah oui?
Ah ouais, ouais.
C'est une réflexion assez mélancolique, ça, Jean-Paul.
Ah oui, vous avez raison. Tout à fait juste. Mais ah oui, bien sûr, disparaître, c'est le truc le plus extraordinaire. Sauf que vous avez des contraintes pas matérielles, familiales, de la vie fait que vous pouvez moins disparaître que vous le désiriez, à cause des moyens de communication qui aujourd'hui sont trop présents. C'est tellement dommage, ça. Oh là là, quel dommage qu'il y ait pu...
La carte téléphonique, où on pouvait plaider de ne plus
mais
avoir
même
de crédit.
Pas. Vous imaginez avant, quand vous avez des gens qui partaient en voyage, et puis le voyage durait plus longtemps que le séjour. En fait, C'est le truc le plus triste, c'est que en général le séjour, quand vous faites un séjour, le séjour dure plus longtemps que le temps d'y aller. C'est dommage, alors qu'avant c'était presque le contraire. C'était long de voyager. Et c'est le chemin qui est intéressant. Le but à atteindre n'a que peu d'intérêt. Dès qu'on y est, bon, on passe à autre chose.
Ah oui, c'est votre cas.
Non, mais ça a pas beaucoup d'intérêt. Par exemple, je vous dis, ah bon, pourquoi? Si je vous dis, par exemple, je sais pas, une ville où je suis allé à la Capri, par exemple. Vous voyez, Capri, ça fait rêver un peu quand même. Et vous dites, tiens, je vais aller à Capri. Ce qui m'intéresse, c'est d'aller à Capri, c'est pas d'être à Capri. C'est le voyage pour aller à Capri qui m'intéresse. Alors, si je le fais en train, c'est intéressant. Si je le fais en voiture, c'est intéressant. Si je le fais en avion, ça n'a que peu d'intérêt.
À cheval
à Capri, ouais, c'est complètement con ça.
Ouais, bah, j'ai plein d'idées complètement cons.
Ça, c'est vraiment complètement con.
Je peux vous soumettre si vous en avez
plaisir,
besoin.
Avec plaisir.
Bon, bah, disparaissons quelques minutes, le temps d'écouter un morceau de la playlist France Inter. Tame Impala, It Might Be Time. Remède à la mélancolie sur France Inter, toujours en compagnie de Jean-Paul Rouve et de René Goscinny, qui signe avec Jean-Jacques Sampé votre sérum littéraire. C'est Le Petit Nicolas, dont les épisodes ont commencé à paraître en mars 59 dans Sud-Ouest Dimanche. Et pendant 7 ans, toutes les semaines, on suivait les aventures du petit Nicolas, qui était né d'abord dans un journal belge, Le Moustique, où ils travaillaient tous les deux sur des planches de bande dessinée. Pourquoi avoir choisi le petit Nicolas, Jean-Paul Roux?
Parce que je pense que c'est mon premier choc gamin, quoi. Où d'humour, ça me fait rire. Je trouve ça intelligent, drôle, touchant, voilà. Et c'est lui après. C'est un mec comme Goscinny qui me fait découvrir après tout ce que j'ai aimé. Comme j'y lis ça, bah je découvre qu'il a fait aussi des scénarios de bande dessinée. Donc je découvre Gottlieb, les Dingo Dossiers, je découvre tout ça.
La revue Pilote. Donc,
Pilote, je découvre Fluide Glacial, je découvre Edika, je découvre toute cette branche-là, tous ces gens-là, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à Fab Caro. Vous voyez,
c'est ça. Fab Caro.
Mais c'est lui, oui, bah oui, c'est ouais. Un génie. Et donc Goscinny, c'est le patron, quoi. C'est le numéro un, quoi.
C'est le premier. Vous dites dans une interview que c'est votre père spirituel en comédie.
Ah oui, oui, vraiment. Ouais, quand on écrivait avec les Robins des Bois, on avait chacun. C'était pour ça que c'était riche, les Robins. Enfin riche, pardon. Enfin riche de points de vue et d'histoire, parce qu'on venait tous de milieux différents et de cultures différentes. Et moi, c'est vrai que c'était ça, moi, qui me plaisait le plus. J'ai amené toujours ça. C'est cet humour-là qui me plaît. Ouais.
Il y a Sampé dit dans une interview que c'est un monde idéalisé de l'enfance. Le petit Nicolas, il dit qu'il n'y a jamais de drame dans la vie de Nicolas. Mais moi, je pense à des personnages comme Agnan, par exemple, qui est le premier Agnan. De la classe.
Mais ouais.
Et il pense que personne ne l'aime.
Mais ouais, bien sûr,
il
le
pleure.
Pauvre.
C'est horrible.
Tout le temps, Agnan. Agnan, il s'en prend toujours plein la gueule. Et oui, mais ils sont tous bien. Et puis, c'est très bien écrit aussi. La forme aussi, le style de Goscinny est quand même étonnant. Et il est tellement... Quand vous écrivez, vous vous rendez compte ce qu'il est prolifique, c'est ce qu'il a été prolifique, cet homme qui est mort jeune, à 50 balais. Tout ce qu'il a fait en si peu de temps, enfin, c'est hallucinant. Je me dis, mais comment il avait le temps de faire tout ça? Et c'est bien dommage qu'il soit mort si jeune, parce qu'il nous aura encore livré des scénarios. Il a écrit des scénarios extraordinaires, c'est lui qui a écrit Le Viager, un film de Pierre Tchernia, qui est dément, Michel Serrault, il a... Enfin bon, voilà, on peut citer tout de lui. Et Astérix, évidemment.
Vous nous liriez un extrait du petit Nicolas?
Attends, je te prends la première page, alors.
Prenez ce que vous voulez.
Alors, ce matin, nous sommes tous arrivés à l'école bien contents, parce qu'on va prendre une photo de la classe, qui sera pour nous un souvenir, que nous allons chérir toute notre vie, comme nous l'a dit la maîtresse. Elle nous a dit aussi de venir bien propre et bien coiffé. C'est avec plein de brillantines sur la tête que je suis entré dans la cour de récréation. Tous les copains étaient déjà là et la maîtresse était en train de gronder Geoffroy, qui était venu habillé en martien. Geoffroy a un papa très riche qui lui achète tous les jouets qu'il veut. Geoffroy disait à la maîtresse qu'il voulait absolument être photographié en martien et que sinon, il s'en irait. Ça, par exemple, vous voyez déjà, je me souviens pas de ce passage, évidemment, quand j'étais enfant, mais ça me fait rire.
Bah oui, mais c'est très drôle.
C'est très très drôle d'avoir ce gamin bien martien au milieu des autres.
Oui, et puis qui fait une sorte de drame en disant je pars si jamais vous n'acceptez pas.
Qu'est-ce que c'est bien. Le photographe était là aussi avec son appareil, la maîtresse lui a dit qu'il fallait faire vite, sinon nous allions rater notre cours d'arithmétique. Agnan, qui est le premier de la classe et le chouchou de la maîtresse, a dit que ce serait dommage de ne pas avoir arithmétique. Parce qu'il aimait ça et qu'il avait bien fait tous ses problèmes. Eux, d'un copain, qui est très fort, voulaient donner un coup de poing sur le nez d'Agnan. Mais Agnan a des lunettes et on peut pas le taper sur lui aussi souvent qu'on voudrait. La maîtresse s'est mise à crier que nous étions insupportables, que ça continuait, il y aurait pas de photo et qu'on irait en classe. Photographe, alors a dit, allons, du calme. Je sais comment il faut parler aux enfants. Tout va se passer très bien. Voilà, moi je vous conseille de lire Le Petit Nicolas à tous les âges, c'est ça qui est bien.
Vous avez vu l'exposition qui était consacrée à Goscinny, hommage au musée d'art et d'histoire du jeunesse. Il y a un très beau catalogue qui est sorti à cette occasion, Goscinny au-delà du rire.
Ah, mais je l'ai pas le catalogue. Ah oui, mais vous allez pas me l'offrir, non,
on est sur France Inter, on est sur le service public. Et déjà, je vous ai mis une photocopie en noir et blanc d'un tableau jaune et bleu.
Intérêt. Aucun. Dire une photocopie d'un tableau en noir et blanc, c'est complètement con.
Oui, je sais, bah c'est la deuxième chose. J'en ai d'autres en stock, okay. Jean-Paul Roux. En littérature, vous avez des goûts très réalistes. Et vous,
ah bon?
Bah, il paraît. Ou alors c'est un mec qui s'est fait passer pour
non,
vous.
Non, mais allez-y.
Alors je vous dis une citation, vous me dites si ça vous correspond. J'aime la littérature assez réaliste et qui ne craint pas les sentiments forts. Balzac, Zola, Mauriac avec cette culture du secret qui exaspère la sensibilité.
C'est dit ça, moi?
Ouais.
Non, c'est trop bien dit.
Peut-être que c'était Alfred Roux.
Non, c'est pas moi qui ai dit ça. J'aime beaucoup les auteurs que vous avez cités. Oui, je te dis ça à un moment, peut-être moins bien d'ailleurs, mais peut-être que oui. J'aime les histoires en tout cas.
Houellebecq et Céline aussi dans vos auteurs.
Évidemment, mais bon, on peut pas ne pas. Des gens, bon, Houellebecq, ça se discute, je sais pas ça. Puis si c'est actuel, Houellebecq, on verra dans 100 ans ce que ça raconte. Mais Céline, évidemment, si on aime la littérature, on peut pas ne pas aimer Céline, forcément, ça c'est quand même la base. Mais j'aime aussi Primo Levi, et puis j'aime mon pote David, et puis j'aime plein de gens. Mais c'est vrai que j'aime bien quand il y a des histoires quand même, un petit peu. Donc oui, dans le sens là, réaliste, oui.
Dépression au-dessus du jardin, ton expression est au chagrin. Tu as lâché ma main, comme si de rien n'était. De l'été, c'est la fin, les fleurs ont perdu leur parfum.
Dépression au-dessus du jardin de Serge Gainsbourg, que j'ai choisi, Jean-Paul Rouve.
C'est bien, c'est gay.
Bah oui, pour introduire l'activité qui vous grise, le jardinage.
Ah d'accord, donc dépression au-dessus du jardin, ouais. vous mettez, je parle jardin, vous tapez jardin chanson.
Moi, en fait, je tape tous les mots-clés sur Google avec dépression.
Oui,
par exemple,
d'accord.
Si vous me dites j'aime les bananes, je tape banane, dépression.
D'accord, voilà. Et par exemple, banane, dépression.
Tout ce que vous me direz, je le passerai au filtre de la dépression.
Et par exemple, dépression, pneus, dépression de pneus, par exemple des pneus, la pression des pneus, ça marche ou pas ?
Ça, c'est dangereux.
Ah oui, c'est vrai, vous avez raison.
C'est dangereux.
Bien sûr.
On va dans les abîmes de l'âme, là, Jean-Paul Rouve.
Complètement.
Bon, le jardinage.
Le jardinage, oui, j'aime bien, ouais, j'aime bien. Ça me détend, voilà.
Okay.
En fait, c'est ça, vous m'avez demandé, pour préparer l'émission, quels sont mes remèdes, on va dire, quels sont mes... Mais des choses qui me mettent en joie, peut-être en bonheur, j'en sais rien. Ça en fait partie. En tout cas, c'est un moment apaisant, voilà.
Vous avez un jardin ou...
J'ai la chance d'avoir une terrasse, donc j'ai des plantes et j'aime bien tailler les oliviers. Là, j'ai taillé pour avant que la sève retombe pour l'hiver. Oui, ça me plaît de travailler les arbres. Là, j'ai un arbre que j'adore. Mon arbre préféré au monde, c'est les érables du Japon. J'adore. Et là, j'ai commandé un érable sublime, une espèce très rare qui est blanc. C'est-à-dire, mais blanc, c'est-à-dire, mais en plein été, hein. La feuille est blanche, immaculée. C'est sublime. Bon, voilà.
Vous avez appris seul à jardiner?
Oui, complètement. Enfin, mon père jardine très bien, mais mon père, il cultive. Enfin, il fait des fruits, des légumes, enfin, des légumes surtout. Moi, je suis plus à arbres, plantes d'ornement et tout, plantes vertes. Ouais.
Vous vous définissez, à moins que ce soit quelqu'un d'autre se faisant passer pour vous, Jean-Paul Rouve, comme solitaire.
Oui, c'est vrai.
C'est une activité très solitaire, le jardinage.
Exactement, vous avez raison. Oui, mais ça me vide la tête, ça me fait du bien. Voilà, je ne saurais pas l'expliquer, mais franchement, je n'ai pas d'autre explication. Je n'ai pas une explication très intelligente. En même temps, c'est au niveau du choix de votre chanson, hein, par rapport au truc qu'on est dans le même niveau. Donc, non, je blague. Oui, ça me fait du bien.
Bon, alors, on désaccordons-nous avec l'harmonieux Stan Getz. Je ne parle pas de sa vie privée, bien évidemment, qui signe votre premier antidote musical.
Se você disser que eu desafino amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento diante musical, eu mesmo mentindo devo argumentar que isto é bossa nova, que isto é muito natural. O que você não sabe, nem sequer pressente, é que os desafinados também têm coração. Fotografei você na minha Rolleiflex, revelou-se a sua enorme ingratidão. poderá falar assim do meu amor. Ele é o maior que você pode encontrar, viu? Você com a sua música esqueceu o principal. Que no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado. No peito dos desafinados também bate um coração.
Mélancolie sur France Inter avec Jean-Paul Rouff qui vient de nous faire entendre un morceau culte composé en 58 par Antonio Carlos Jobim et Newton Mendonça, enregistré par Joao Gilberto. C'est Desafinado, désaccordé, et là on entend l'enregistrement de 63 avec le saxophoniste américain Stan Getz, et toujours la voix de Gilberto.
Ouais. Ah, c'est beau, hein, c'est beau.
C'est la grâce absolue, cette chanson.
C'est la grâce absolue, et puis il y a un côté je sais pas, surtout cet enregistrement-là. On est dans le studio, enfin un son et un son particulier, je trouve, sur ce morceau, moi qui ça me touche. Et en même temps, c'est marrant parce que c'est censé être un remède à la mélancolie, mais la bossa c'est une musique très mélancolique. En
ah fait, ouais, c'est la mélancolie douce inhérente à la bossa. Ouais.
Je trouve très très bon. Je trouve, mais moi ça me met bien, ça me met de bonne humeur.
Ça berce,
ouais, je trouve c'est joli. Après ça peut être un peu chiant des fois aussi, mais c'est bien aussi quand c'est un peu chiant.
Up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Look at all the lonely people. Ah, look at all the lonely people.
do they all come from? All the lonely people, where do they all belong?
1966, Eleanor Rigby des Beatles. Jean-Paul Roux, vous m'avez fait un bang bang très harmonieux à la fin de la chanson.
Oui, c'est comme ça qu'elle finit. Eleanor Rigby, j'adore. Non, bang bang, j'adore, super beau.
Vous avez l'oreille absolue, non?
Mais tellement comme vous, j'ai l'impression.
Oui.
Vous avez un bon accent anglais, j'ai remarqué.
Merci, c'est gentil. Ouais,
c'est balèze, c'est impressionnant.
Je parle anglais comme Edith Piaf.
Alors ça va.
Ça va.
Tant vous n'avez pas son physique.
Arrêtez la pauvre. Alors, c'est une chanson triste sur la solitude que vous avez choisie, Jean-Paul Roux.
Non, j'ai pris celle. Mais c'était les Beatles en général. Je parle des Beatles en général, évidemment. J'adore les Beatles. Je suis fasciné par les Beatles. Je suis fasciné. Souvent, tout le monde cite Lennon. J'aime beaucoup Paul McCartney. Je trouve que c'est évidemment un mélodiste de génie. Et puis, je trouve que c'est une force humaine, artistique, tellement dingue qu'on l'oublie que ces mecs étaient quand même des stars absolues. Donc, c'est 66, ils font cet album-là qui s'appelle Revolver, où il y a ce chef-d'œuvre dessus et d'autres. Et puis là, ils sont les rois du monde et ils décident d'arrêter les tournées. Et c'est, la pression, elle est énorme. Ils ont 24, 25 ans. On oublie qu'ils sont très, 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 très jeunes. Et lui, il arrive à avoir la force de pas écouter tout ça et de commencer à composer ce qui deviendra leur chef-d'œuvre, un album majeur, Sgt. Pepper. Et ça m'impressionne, ça, chez un artiste, d'avoir cette force-là, alors que le succès à ce point-là peut être tellement paralysant.
Mais vous avez malgré tout choisi, Jean-Paul Roux, une chanson qui parle d'une vieille fille qui fait le ménage dans les églises, ouais, après les mariages, donc qui ramasse le riz, ouais, alors qu'elle est seule au monde.
Ouais, mais je trouve ça beau. Pourquoi j'ai choisi celle-là? Parce que quand j'ai découvert cet album, quand j'ai écouté les Beatles, j'ai découvert cet album, j'ai eu un choc émotionnel sur cette chanson, qui est dingue. Je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? Je trouve ça extraordinaire. Et si vous avez la chance de l'avoir chez vous, si vous avez le vinyle chez vous, je vous conseille de faire, vous faites, parce que il est enregistré en stéréo l'album, donc vous faites droite gauche sur vos enceintes, donc vous coupez une enceinte, je sais plus c'est là, et il y a une enceinte où il y a toutes les instruments, et sur l'autre enceinte il y a que la voix de McCartney avec derrière que les petits accords de violon, c'est tout. Et vous écoutez ça, et il chante parfaitement bien, c'est sublime, c'est plus beau à écouter encore comme ça.
On dirait quelque chose de satanique.
On le met à l'envers, oui. 666. John is dead. Non, Paul is dead. Ouais.
Bon, je voudrais me rattraper du titre dépressif de Gainsbourg passé tout à l'heure.
J'ai siroté mon café et je n'ai plus qu'une idée. Fais la sieste de l'année.
Bernadette Lafont et Sarah Mesguich introduisent tant bien que mal votre tableau consolatoire, Jean-Paul Roux, ouais, avec la chanson La sieste de papa, petite pépite.
Bien sûr, c'est extraordinaire. Mais alors, voyez comment vous êtes à France Inter. Si c'est les Beatles, si c'est des affinados, vous laissez en entier. La sieste de papa, vous coupez ça.
Non, pas du tout. C'est parce qu'on a jugé vos choix en entier.
Ça, c'est
et
pas
les
mon
miens.
Choix. C'est...
Ah, bah oui, bon, ça, d'accord. C'est le mien. Ah, donc, oui, par humilité, on n'en
ouais,
a mis qu'un extrait.
Alors, je suis d'accord. Ça
alors,
va.
Vous avez choisi un tableau, Jean-Paul Roux, c'est La sieste, peint par Van Gogh vers 1889, d'après un dessin de Jean-François Millet pour les 4 heures de la journée, repris en gravure par Jacques-Adrien Lavieille.
D'accord, voilà. Ça je ne savais pas tout ça.
Bon, et Van Gogh le réalise alors qu'il est interné dans un asile à Saint-Rémy-de-Provence.
Ah bon?
vous pouvez le décrire?
C'est un couple, ça se passe, donc c'est, il y a une, comment ça s'appelle ça? Ça là.
Un papier à quatre.
Non, pas ça, là, sur les feuilles. Comment ça s'appelle ça?
Des arbres.
Non, mais c'est pas des arbres, ça, c'est de la paille.
Un rocamadour.
Ok, d'accord. Donc, il y a un couple de paysans qui fait la sieste, en fait. On voit que leurs outils sont posés, leurs faux, ils ont retiré leurs chaussures. Et donc, c'est un paysan avec sa compagne, on pense que c'est sa compagne ou une collègue avec qui il bosse, qui sont en train de se reposer.
À l'ombre d'une meule.
Une meule, voilà, c'était le mot que je cherchais, meule, ah. Merci. Et on voit au fond leur petite charrette avec l'animal qui sont en pause. Et ce tableau, j'adore ce tableau. Pourquoi j'adore ce tableau? Parce que, je vais vous dire pourquoi, parce que c'est mon premier... moi, je viens d'un milieu modeste où la culture était beaucoup la télévision, un petit peu le cinéma, mais beaucoup la télévision et un tout petit peu les livres que j'allais glaner. En aucun cas la peinture. Je ne connaissais de la peinture que ce que tout le monde connaît, c'est-à-dire la Joconde, enfin bref, des tableaux. Et on me disait que c'était beau et je disais que c'était beau parce qu'on m'avait dit que c'était beau. Comme aujourd'hui, on dit que Mozart c'est bien. Enfin, on ne sait pas vraiment pourquoi aujourd'hui. Pourquoi c'est bien? Pourquoi la Joconde c'est beau? On ne sait pas. Pas vraiment. Si on cherche pas, on a l'impression que c'est de l'acquis. Bon voilà. Et puis un jour, je me souviens, je suis en voiture avec mes parents et on est à Dunkerque et on est le long de la digue où il y a la mer. Puis il y a des boutiques et il y a un boutique qui vend des encadrements, des cadres de tableaux. Et ils mettent des tableaux pour illustrer. Et ils mettent ce tableau, La sieste de Van Gogh. Et j'ai un choc. C'est la première fois de ma vie que j'ai un choc comme ça, une émotion pour un art pictural. Et donc voilà, et il me fait du bien ce tableau, et je me suis empêché d'acheter la reproduction, évidemment, que j'ai mis dans ma chambre d'adolescent, et j'ai eu la chance ensuite d'aller au musée d'Orsay, parce qu'il est au musée d'Orsay. Et là, deuxième choc incroyable, parce que, enfin je vous le dis, s'il y a des tableaux que vous aimez, essayez d'aller les voir en vrai, quoi, parce que c'est quand même dingue, en vrai, un Van Gogh en vrai, la couleur, ce que ça en dégage, c'est fascinant.
Merci beaucoup Jean-Paul Roux, vous êtes venu dans cette émission. Merci.
Avec plaisir.
Dès mercredi prochain, vous serez à l'affiche du film « Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part » d'Arnaud Viard. Le 18 mars, à celle de « Petit pays » d'Éric Barbier. Et dans un futur certain, dans le film « Zaï, 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 zaï » de François Dezania, actuellement en tournage. Et je viens pour l'anecdote de citer trois adaptations d'ouvrages signées dans l'ordre par Anna Gavalda, Gaël Faye et le désopilant Fab Caro.
C'est vrai.
Vous serez aussi, vous avez déjà la date, c'est quand même incroyable, ouais. Le 9 décembre 2020 à l'affiche des « Tuches 4 » d'Olivier Barou. Toutes les références, chers auditeurs, sont à retrouver sur le site de l'émission comme la programmation musicale. J'espère que votre humeur est aussi espiègle qu'un mimosa illusionniste. Rendez-vous dimanche
prochain
à 10h10. Dieu seul le sait.